Avant d'écouter un nouvel épisode de Prolongation, je vous encourage à aller faire un tour sur la boutique en ligne de Calcio EPP. C'est sur www.calcioepp.shop. Et vous trouverez des posters en papier, des affiches murales en aluminium consacrées au football italien et européen. Milan, la Juve, l'Inter, Roma, Napoli, Real, Barça, Bayern, Manchester United, plusieurs clubs de Ligue 1 et de Ligue 2, des sélections nationales et même beaucoup de vintage. C'est un moyen de soutenir le podcast Prolongation et c'est à retrouver sur calcioepp.shop.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Bonjour à tous, je suis Johan Crochet, journaliste et podcasteur, et je vous souhaite la bienvenue dans un nouvel épisode de Prolongation. Prolongation est un podcast d'entretien où je rencontre des acteurs du football pour décrypter et découvrir les subtilités de leur métier. Dans des conversations de 30 à 60 minutes, nous discutons de leur métier pour mieux le décoder. L'idée est de donner des clés pour mieux comprendre le football avec ceux qui le font. Et vous le verrez, il n'est nullement question de buzz dans ces entretiens avec des entraîneurs, des préparateurs, des recruteurs, des formateurs, des joueurs et bien d'autres personnalités. D'ailleurs, si vous avez apprécié cet épisode ou les précédents, je vous encourage à mettre les 5 étoiles et laisser un commentaire sur Apple Podcasts pour faire découvrir Prolongation au plus grand nombre. Aujourd'hui, je reçois Sandy Guichard, préparateur physique de l'AS Monaco. Avec lui, nous avons évoqué les grandes questions de la préparation physique. Nous avons parlé de ses missions au quotidien et de son travail de réathlétisation auprès des joueurs blessés, avec notamment un cas pratique en détail à la toute fin de ce podcast. Nous avons également abordé le sujet du département performance de l'AS Monaco, de l'apport des sport scientists pour notamment mieux évaluer la charge de travail, et de la minutie que requiert son métier avec toujours plus d'avancées technologiques. Voilà pour le résumé, il est temps maintenant de laisser la place à cette conversation avec Sandy Guichard. Bonjour Sandy Guichard et bienvenue dans le podcast Prolongation.
Bonjour Johan, bonjour.
Alors dans ce podcast, Sandy, on commence toujours par la même question. Est-ce que tu peux nous raconter un match qui t'a marqué? Alors soit par son scénario, ça peut être par un résultat, une émotion particulière que tu as pu ressentir, et c'est une sorte de Madeleine de Proust à laquelle il t'arrive de repenser de temps en temps.
Ouais, bah écoute, en fait, un peu comme tout le monde, on a beaucoup de matchs qui nous viennent en tête, mais c'est vrai que moi particulièrement, et j'en ai un parce que je l'ai vécu en direct, on va dire, c'est ce match avec l'équipe nationale d'Algérie où on a perdu en huitième de finale lors de la Coupe du Monde en 2014 au Brésil contre l'Allemagne, les futurs champions du monde. Donc ça a été quelque chose qui était un peu inattendu, qui a été très rapide puisque on a joué deux jours après la qualif des poules, et jouer contre les champions du monde, les Neuer, etc., ça a été quelque chose de vraiment très particulier.
Et surtout que d'ailleurs, ce match, moi je m'en souviens très bien, l'Algérie est pas loin de faire l'exploit. Clairement, c'est un match qui joue sur... Alors on peut toujours dire, quand on parle des champions du monde allemand, il y a des joueurs qui jouent dans les meilleurs clubs et notamment au Bayern, ça c'est une évidence. Mais sur ce match-là, ça se joue quand même à pas grand-chose.
Et ben, ça se joue à un grand Neuer, ouais. Parce que c'est, je crois que c'est la seule fois où un gardien à la Coupe du Monde a joué plus de ballons en dehors de la surface qu'à l'intérieur, et il nous avait fait un grand show. Et c'est vrai que sans lui, je pense qu'on aurait pu passer, et puis peut-être jouer la France donc en quart de finale. Ça aurait été quelque chose encore de plus grand, de plus beau, mais bon, c'est déjà bien à vivre, et c'est un sacré souvenir. Ouais.
En termes d'émotions fortes, en termes d'émotions pures, c'est vraiment ce match-là qui te reste aujourd'hui. Si on peut parler de fierté ou d'accomplissement dans le travail, c'est vraiment ton match référence, entre guillemets.
Oui, parce que en fait, ce qui est un peu particulier, c'est qu'en équipe nationale, vous jouez très peu de matchs. Donc c'est vrai que chaque match a une importance capitale. On va dire même le petit match qu'on va jouer au fin fond de l'Afrique a une importance, comptablement parlant, très importante. Donc quand vous avez des objectifs pendant 4-5 ans à atteindre la Coupe du Monde et à arriver à jouer ce match-là, je veux dire, le chemin est long. Donc forcément, c'est quelque chose qui me restera gravé jusqu'à la fin de ma vie, ça c'est sûr.
Quel a été ton rapport au sport et au foot d'ailleurs dans ton enfance et dans ton adolescence? Est-ce que tu faisais partie de ces joueurs qui ont joué, qui ont atteint un petit niveau, qui ont espéré atteindre le grand niveau et puis qui ont finalement bifurqué dans une autre voie après?
Moi, je pense que j'ai été et je suis toujours un fan de sport. J'aime tous les sports. C'est-à-dire que je peux me mettre devant le biathlon, devant le saut à la perche, devant le foot. Enfin, j'aime tous les sports depuis tout petit. Et bien sûr, le foot, pour moi, c'est un peu ma vie. Voilà, c'est plus qu'une passion. Et j'estime qu'aujourd'hui, et encore plus dans un club comme Monaco, je n'ai pas un vrai travail. C'est plus une passion qu'autre chose. Et mon niveau ne me permettait pas, parce que je n'ai joué qu'en DH et en CFA ensuite. J'aurais pas pu en vivre et j'ai pas pu faire une grande carrière, loin de là. Donc, puisque moi, mon intérêt, c'était le football et à la fois, j'adorais la physiologie du sport, les choses qui s'approchaient du domaine scientifique. Et ben, en fait, le métier qui couplait les deux, c'était un peu préparateur physique. Voilà pourquoi j'en suis arrivé là.
Alors, pour ceux qui ne te connaissent pas, je vais rappeler rapidement tes différents clubs et sélections avec qui tu as travaillé, de Belfort en amateur à Dijon, Bordeaux, Sochaux, Sion, maintenant l'AS Monaco. Et donc, tu en as parlé dans ton meilleur souvenir, la sélection nationale algérienne. Je te propose d'ailleurs de commencer par cette expérience qui arrivait finalement très tôt dans ta carrière. Pour les sélectionneurs, on dit souvent que, alors ça évolue aussi un petit peu, hein. On dit souvent la sélection, ça vient après tout un parcours en club assez long et puis ça permet de basculer sur un autre type d'entraînement, entre guillemets, avec une périodicité un petit peu plus laxe, entre guillemets. Toi, ça arrivait quand même assez tôt. On dit souvent que le métier de sélectionneur, du coup, n'a pas grand-chose à voir avec celui d'entraîneur de club. Est-ce que c'est aussi valable sur des thèmes de préparation physique? Alors, dans un staff élargi, il y a pas mal de composants, mais est-ce que le métier de préparateur physique en sélection est identique à celui en club?
Je voudrais juste préciser que c'était pas Belfort, c'était Besançon.
Ah oui,
alors, c'est
exact.
Pas très grave. Non, mais c'est important parce qu'en fait, j'ai passé de nombreuses années là-bas et c'est là aussi que j'ai appris pas mal de choses parce que quand on est dans le foot, on va dire semi-pro, même si tous les joueurs étaient à temps plein et le staff aussi, c'est là qu'on apprend à faire beaucoup avec peu. Et aujourd'hui, je m'en sers beaucoup aussi bien à l'AS Monaco que j'ai pu faire dans d'autres clubs, donc pour moi, c'est important. Après, pour répondre vraiment à ta question, écoute, oui, je fais totalement un métier totalement différent entre aujourd'hui à l'AS Monaco où on est parti sur vraiment quelque chose de très performance, de très pointu, de très haut niveau. Et une sélection comme l'équipe nationale d'Algérie où on a un rôle un peu plus mixte, c'est-à-dire à la fois préparateur physique, mais aussi à la fois entraîneur adjoint, dans le sens où les rassemblements sont peu fréquents, peu longs. Et en dehors de ces dates-là, il faut suivre les joueurs. Il faut suivre les joueurs en club, d'un point de vue tactique, mais aussi physique, d'aller les rencontrer, d'aller dans leur club, voir comment ils sont, comment ils s'entraînent, est-ce qu'ils ont des manques, etc. Donc c'est totalement différent d'un entraînement au quotidien qu'on fait, on peut faire au club à l'AS Monaco, où là, on est vraiment dans le suivi très précis, tous les jours, voilà, dans le détail. Donc deux paramètres très, très différents.
Il y a une autre réalité aussi en sélection, c'est que quand on constitue le 11 titulaire, il y a des joueurs qui jouent beaucoup en club, d'autres un peu, voire beaucoup moins. Est-ce qu'en termes de préparation dans ton travail au quotidien en sélection, du coup, c'est un petit peu plus délicat, il faut aller plus dans un travail d'individualisation pour essayer de mettre tout le monde au même niveau? Parce que on le voit notamment, je vais prendre un exemple que tout le monde connaît maintenant, en équipe de France, le temps de jeu de Mbappé et de Olivier Giroud, régulièrement, il y a des débats là-dessus, il n'est pas le même. Et donc, on sait que, par exemple, Olivier Giroud a besoin de travailler un peu plus physiquement lors des rassemblements. Est-ce que du coup, c'est plus compliqué dans l'approche pour essayer de mettre tout le monde au même niveau?
Pour moi, c'est à la fois plus simple et plus compliqué. Je vais m'expliquer. Plus simple dans le sens où l'avantage de l'équipe nationale, c'est que tu choisis les joueurs que tu veux. C'est-à-dire que si un joueur est en méforme, tu n'es pas obligé de le prendre. Mais tu auras forcément un joueur, un autre joueur, peut-être de la qualité équivalente, que tu pourras aller chercher dans un autre club. En club, tu as les joueurs qui sont là et il faut faire avec. Et si un joueur est un peu en méforme, un peu blessé, c'est à toi de réduire le délai de retour sur le terrain, etc. Donc c'est déjà une approche un peu différente. Après, pour répondre vraiment à ta question, effectivement, l'Algérie était surtout un très bon exemple pour ça. On avait des joueurs qui jouaient dans des clubs, on va dire, plus standards, qui jouaient beaucoup. Et on avait des joueurs qui jouaient dans des très grands clubs, comme à l'Inter Milan, ou comme ça, et qui jouaient très peu. Et c'est vrai que faire le mixte de ça, ça n'a pas toujours été facile. Mais, par exemple, pour reparler de la Coupe du Monde au Brésil, ça a été, je pense, pour nous un atout, puisqu'on a récupéré des joueurs qui étaient assez frais. Et on a fait une très, très grosse prépa physique juste avant la Coupe du Monde. C'est ce qui nous a permis d'être plutôt dans une phase, on va dire, un peu, je veux dire, ascendante. Voilà. Alors que d'autres sélections, elles, ont plutôt récupéré des joueurs un peu plus fatigués, un peu plus là. Et ça a été plus compliqué pour eux de les gérer d'un point de vue aussi bien physique que mental. Donc, pour moi, c'était un atout en équipe nationale, mais je peux comprendre que dans d'autres sélections un peu plus huppées, ça puisse être plus compliqué sur un tournoi, sur un Euro, une Coupe du Monde, de mettre tout le monde au même moment, d'être performant. Mais après, c'est justement notre rôle d'anticiper ces choses-là et de suivre les joueurs en club pour justement parfois leur faire comprendre quel travail doit faire en plus, en moins, etc. Voilà. Mais en général, les joueurs sont tellement investis pour leur équipe nationale que c'est assez fait assez naturellement, donc c'est pas trop un gros problème.
Alors justement, tu as pris l'exemple de la préparation de la Coupe du Monde où généralement on a un peu de temps C'est-à-dire qu'on a 3 semaines, 1 mois selon la date de fin des championnats. Mais par exemple, pour des stages en cours de saison, généralement, avant le premier match, on a quoi, 3, 4, 5 jours avant le premier match. Du coup, le travail, il est un petit peu différent. C'est-à-dire que quand tu as 3, 4 semaines, tu peux prévoir une montée en gamme progressive dans ta préparation physique. Comment tu fonctionnes quand, du coup, tu n'as que 3 ou 4 jours, sachant qu'il y a la veille de match, sachant qu'il y a le jour d'arrivée, etc.
En fait, dans ces rassemblements assez courts, l'avantage, c'est que tu prends justement les joueurs qui sont physiquement prêts, parce que tu peux pas te permettre de prendre un joueur qui a très peu joué ou pas joué du tout. Après, si c'est un joueur qui est très important à son poste-là, qui est par rapport au niveau de l'équipe que tu joues, tu peux te le permettre. Mais c'est vrai que dans l'organisation, on est plutôt sur de l'affûtage, sur des choses de très intenses. Hein, on va tout de suite sur du travail de haute intensité, des choses comme ça. On est vraiment dans la préparation à court terme du match. Et voilà. Et l'avantage en équipe nationale, c'est que tu as beaucoup de temps avant, donc tout est préparé, tout est anticipé, toutes les séances sont précises. Des fois, même on les retravaille avec des équipes de jeunes pour voir ce qu'on aurait pu modifier, rajouter. Donc c'est vrai qu'on est vraiment dans le pointu, on part vraiment de la séance même. Voilà, on est vraiment sur une séance, c'est pas plutôt sur un micro-cycle ou un macro-cycle de 2-3 semaines. Après, parfois, ça peut avoir un désavantage. C'est effectivement, si vous avez joué un méforme mais qui est important dans l'équipe, parfois c'est difficile de le faire jouer, parce que justement, comme je te disais tout à l'heure, si jamais tu perds un match dans une poule à 3 ou à 4, parfois c'est très compliqué pour se qualifier. Donc c'est vrai que c'est un juste milieu. Voilà.
Alors on parlait de ce besoin de savoir s'adapter au contexte entre sélection et club. Il y a un autre contexte aussi qui me paraît assez évident, c'est ce que demande l'entraîneur en place quand tu es dans un staff technique. Tu as pu travailler avec pas mal d'entraîneurs au niveau professionnel en club. Est-ce que ton travail peut changer finalement, j'ai même envie de dire radicalement, selon l'entraîneur qui est en place? Je prends un exemple assez simple, c'est que l'entraîneur privilégie un jeu de possession, un jeu basé sur la contre-attaque ou du contre-pressing. Par exemple, les efforts des joueurs en match ne seront pas les mêmes. Si on prend des joueurs qui ont besoin d'être très réactifs, les démarrages sur les appuis sont violents, les premiers mètres de course également. C'est différent du jeu de position qu'on peut observer dans certains clubs, comme par exemple Manchester City. Du coup, pour toi, quand tu dois préparer les joueurs à la performance, tu es dans des univers un petit peu différents, j'imagine.
Pour te répondre clairement, quand je suis sorti un peu de la fac, des choses comme ça, mes formations, je pensais avoir construit ma méthode et que peu importe où j'irais, voilà, pas j'imposerais ma méthode, mais j'avais un peu la vérité, c'était comme ça. Voilà. Et je me suis rendu compte qu'au fur et à mesure, effectivement, suivant les clubs où tu vas, suivant les coachs à qui tu coaches, forcément, ces choses évoluent parce que forcément, il y a un contexte, il y a une méthodologie, il y a une attente de l'entraîneur, il y a une tactique, il y a une stratégie qui est différente. Après, tu vois, ces choses-là, elles évoluent un peu parce que je prends le cas du club de l'AS Monaco. Aujourd'hui, c'est un club fort, c'est un club de haut niveau. Et il y a des choses qui sont mises en place pour que, justement, ce soit une philosophie de club. C'est-à-dire qu'effectivement, un entraîneur va donner sa patte, son détail, que ce soit sur l'aspect tactique, mais aussi physique. Mais il y a quand même une stratégie, une optimisation de performance qui vient du club, qui est insufflée par des gens du club, par exemple des directeurs de la performance, par des préparateurs physiques, par une idéologie de directeur sportif, qui fait que, sans parler de l'AS Monaco, on peut prendre d'autres clubs, hein. Tu prends les Red Bull Salzbourg, Leipzig, des choses comme ça, où je ne dirais pas peu importe l'entraîneur, parce que ce n'est pas le cas, mais en tout cas, il y a une philosophie de club qui va aussi bien sur l'aspect recrutement, mais aussi bien non, sur la performance, donc, c'est-à-dire sur la prépa physique. Donc je te dirais qu'à la fois, c'est un mixte entre la stratégie club et ce que le club veut faire et représenter d'un point de vue athlétique, hein, et d'un autre côté, la patte de l'entraîneur qui, lui, à mettre son détail, ce qu'il va attendre, etc. Donc c'est à nous, justement, d'être attentifs à ça, à ces deux choses, à ces deux stratégies qui sont souvent communes et sur lesquelles, en général, ça se passe très bien. Voilà. Pour finir, peut-être que dans d'autres clubs moins huppés que j'ai connus, effectivement, l'entraîneur avait peut-être plus la chance ou la malchance, je ne sais pas, de devoir insuffler sa propre méthode. Mais je dirais que plus on va dans le haut niveau, comme un club, encore une fois, je parle du club où je suis, l'AS Monaco, je pense que l'identité club et la stratégie qu'elle veut mettre en place, enfin que le club veut mettre en place, est tout aussi importante que la stratégie du coach.
Alors l'AS Monaco, justement, est réputé pour avoir un staff extrêmement dense et compétent qui s'enrichit au fur et à mesure, d'ailleurs encore récemment, autour notamment du directeur de la performance James Buns. Est-ce que ce staff très développé est finalement la réponse aux besoins de plus en plus remarqués de faire de la préparation individuelle? C'est-à-dire qu'il y a évidemment une trame collective, mais il y a aussi des morphologies différentes, des besoins différents. Les latéraux n'ont pas les mêmes courses en quantité et qualité que les numéros 6 ou les numéros 9. Est-ce que ce staff, alors c'est particulier à l'AS Monaco, mais finalement à d'autres grands clubs également, c'est on va de plus en plus dans une stratégie, et pas seulement sur la préparation hein, physique d'ailleurs, ça peut être sur la préparation mentale, ça peut être sur d'autres choses, de vraiment s'intéresser en profondeur à l'individu, donc au joueur, à l'individualité qui va s'inscrire dans un collectif.
Je pense que, je dirais comme ça, le cumul des compétences n'est pas forcément, enfin, et l'augmentation du nombre de staff n'est pas due forcément à, aussi à l'envie d'induire au maximum. Parce que je pense que c'est juste, je prends le cas de la AS Monaco, j'ai la chance, sincèrement, et depuis un an et demi, d'être ici, d'être entouré. Alors, je veux dire des meilleurs parce que je n'étais pas objectif, mais c'est vrai que si je prends chacun autour de moi dans le staff, chacun est vraiment spécialiste, a des compétences vraiment reconnues et quelqu'un de reconnu dans son domaine. Ça, je pense que c'est ça la performance. C'est être entouré de gens qui connaissent vraiment leur domaine. Et l'intérêt, par exemple, de quelqu'un comme James Bond, d'être directeur de la performance, c'est justement d'arriver à manager tout ça et de faire que ces compétences, elles ne soient pas séparées, qu'elles soient communes pour un projet commun. Et je pense que, comme tu disais, le fait d'avoir un staff, je pense, très, très compétent, un management de cette manière-là, fait qu'on va avoir une vision globale de l'équipe, c'est-à-dire qu'on va avoir un suivi de la charge, par exemple, si je te donne un exemple. Voilà, on va suivre les datas d'un point de vue général, mais aussi on va pouvoir aller un peu plus sur le spécifique, mais sur le spécifique poste, comme tu l'as signalé, mais sur le spécifique individuel, c'est-à-dire qu'aussi, par exemple, si on prend un joueur, on va essayer de développer pas que ses points faibles, au contraire, ses points forts. C'est-à-dire qu'on sait qu'aujourd'hui, c'est à ce poste-là, c'est peut-être le meilleur sur cette qualité-là, on va continuer à se développer là. Et on a la chance d'avoir des gens compétents autour de soi qui, dans chaque domaine, que ce soit la nutrition, la prépa physique, la prépa mentale, va faire qu'on va essayer d'optimiser, c'est vraiment le terme, je pense, c'est vraiment le terme qui est important, optimiser les 2, 3, 4, 5, 10% de plus qu'on va pouvoir aller gratter. Et je pense que c'est vraiment l'intérêt aujourd'hui de ces staffs qui sont certes élargis, mais je pense que ce n'est pas une question que non, c'est surtout une question de compétence, voilà, et d'expérience, parce que la compétence, il y en a dans tous les clubs, beaucoup, et je pense que ce qui fait un peu la différence aussi, c'est l'expérience, voilà, c'est le mix des deux.
Alors, tu parlais de data et de charge de travail. À l'AS Monaco, il y a aussi des sports scientists. C'est un métier qui se développe de plus en plus et les clubs font appel de plus en plus à ce type de profil. Derrière ce métier, il y a aussi une volonté de minutie, d'une approche scientifique de la prépa physique notamment. C'est un peu comme une recette en fait en cuisine. Ça se joue au gramme près parfois dans la préparation des plats. Là, ça peut se jouer au sprint près, à la longueur du sprint, à l'exercice à ne pas faire en trop, pour ne pas être dans une surcharge de travail. Comment se passe ta collaboration du coup avec ces personnes chargées de l'approche, on va dire, très scientifique de la préparation ?
Alors justement, ça c'est une question qui est très intéressante dans le sens où je pense qu'on pourrait en débattre des heures et des heures. Je pars du principe que l'empirisme est très important, c'est-à-dire que le savoir-faire de l'entraîneur, du préparateur physique, peu importe, sur le terrain, le ressenti, le feedback du terrain, du joueur, de ce qu'il connaît, est très très important. Mais peut-être que pour gagner justement ce qu'on disait tout à l'heure, les 4, 5, 10, 20%, je ne sais pas, je n'ai pas exactement le terme, mais en supplémentaire, l'intérêt de la science est grand. Et c'est vrai qu'à Monaco, on a une chance inouïe, c'est qu'on a quand même peut-être les deux meilleurs sports scientifiques de France, c'est-à-dire que Yann Lemeur est connu dans le monde entier, Bruno Marié également, et c'est vrai qu'avoir ces gens-là au quotidien, ça valorise certes le travail de l'AS Monaco, mais aussi le nôtre, parce que je prends mon cas au quotidien, je me sens épaulé, c'est-à-dire que j'ai les données avant entraînement de ce qui a été fait les jours précédents, donc je sais exactement ce que je peux ajuster le lendemain, ce que je dois faire, est-ce que je dois faire un peu plus de sprint, un peu moins de sprint, est-ce que je dois faire plus de sauts, est-ce que la distance entre 20 et 25 km/h est trop importante, moi. Donc c'est-à-dire que déjà avant, je peux prévoir ma séance. Avec ce genre de personnes-là et donc justement tous les outils qu'ils ont, ça permet aussi de faire du live, c'est-à-dire qu'en direct à l'entraînement, je sais ce qui se passe. On a un feedback de la charge, ce qu'on appelle externe. Qu'est-ce qu'on fait réellement ? Pas ce qu'on perçoit. Et ça, c'est aussi un intérêt, ça, qu'on peut ajuster sur le terrain, chose qu'avant, on ne pouvait pas faire. C'était un peu de l'empirisme. Et après, derrière, la troisième phase, c'est le feedback. C'est-à-dire que, voilà, aujourd'hui, on a fait ça. Concrètement, on a fait ça, il s'est passé ça. Voici le ressenti des joueurs. Voici, en termes de data, ce qu'on a. Et ça permet à la fois de voir si on est dans les zones qu'on voulait travailler ou pas, ce qu'il aurait fallu améliorer, pas améliorer, ce que demain, on peut anticiper faire. Et en fait, c'est vraiment ça, c'est cette chose de dire, j'ai un feedback et en même temps, j'anticipe pour le lendemain. Ça, c'est toutes les datas qu'ils nous donnent. Donc, c'est ces gens-là qui nous aident au quotidien pour être vraiment le plus précis possible. Et en plus, ils ont une deuxième particularité, c'est que ce ne sont pas des scientifiques que des scientifiques, hein, ce sont aussi des gens de terrain. Et ces gens de terrain, ils ont la capacité d'aller chercher un peu les derniers essais du scientifique, ce qui est sorti de nouveau, ce qui se fait à l'étranger, etc. Et de nous donner ces feedbacks-là, ce qui nous permet aussi, nous, de nous amener sur le terrain. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un mix entre la science et le terrain. Voilà. Et c'est de la science appliquée, quoi. C'est vraiment extraordinaire, c'est génial.
Et alors, tu parlais du ressenti des joueurs. Est-ce que parfois, il y a eu un vrai décalage entre ce qui était conseillé par l'étude de la charge de travail, toutes les datas que vous pouvez récupérer avec des appareils technologiques à l'entraînement, justement en live aussi, et le ressenti des joueurs qui vous expliquaient que, je sais pas, il peut y avoir un tiraillement, il peut y avoir soit physique ou soit parfois aussi quelque chose qui leur plaît moins dans ce qui est travaillé.
Maintenant, vu qu'on travaille beaucoup avec le live, j'ai envie de te dire que non, c'est quasiment presque impossible, puisque au quotidien, par exemple, je donne un exemple très concret, très précis. Si on a estimé qu'il fallait faire 200 mètres pour tel joueur à plus de 25 km/h, voilà, et ben en live, on voit concrètement il a fait. Donc si on voit qu'il a fait 100 mètres à la fin d'entraînement, et ben il va rester à côté avec nous et on va lui faire du travail complémentaire pour qu'il atteigne ses 200 mètres. Voilà. Donc en fait, tu peux difficilement te tromper là-dessus. Et cet intérêt-là, elle est encore plus grandissant avec les blessés. Moi qui m'occupe aussi des blessés à l'AS Monaco, où là il faut être encore plus précis, plus pointilleux parce qu'on n'a pas droit à l'erreur, et ben cette science-là, ces sport sciences-là et c'est tous les outils qu'on utilise nous aident vraiment à être le plus précis possible. Et j'irai même plus loin, c'est pas que l'AS Monaco, parce que même dans des clubs moins UP, des clubs amateurs ou semi-amateurs, on va dire en CFA, en N2, en NA, les préparateurs physiques ou les entraîneurs adjoints sont très formés maintenant et ils ont aussi, alors peut-être pas les mêmes outils que nous, mais ils ont des outils aussi intéressants que sur les RPE, des choses comme ça, où il y a forcément un suivi de la charge, qu'elle soit externe ou interne. Et ça, je pense que c'est une sacrée avancée depuis 10-15 ans, parce qu'avant, on était. Ce qui était très bien aussi, hein. On était dans l'empirisme. Et je pense qu'aujourd'hui, le sport de niveau, et en tout cas le foot, je parlais de ce que je connais, c'est un mixte entre ça, entre l'expérience, l'empirisme des staffs, la capacité, le savoir-faire sur le terrain, et à la fois les outils, donc les sports scientifiques ou d'autres choses, qui sont là pour nous aider. Parce qu'en fait, c'est ça, c'est pour nous aider, avant et après l'entraînement, et même maintenant pendant l'entraînement.
Avec cette nouvelle méthodologie que tu as découvert, du coup, est-ce que tu as noté des vraies améliorations? Alors, ça peut être sur le nombre de blessés, sur le fait que les blessés reviennent mieux, plus vite ou ont moins de risques de rechute. Quels sont tes retours sur cette méthodologie de travail avec les sports scientists et la data?
Tu sais, ça reste un jeu. Donc, c'est-à-dire que pendant un match, tu ne contrôles pas les joueurs.
Exactement.
Il y a des choses qui te dépassent, et heureusement, tant mieux, c'est l'intérêt du sport même. Donc, je ne dirais pas qu'il y a moins ou plus de blessures. Je pense que les choses évoluent parce que les joueurs évoluent. C'est-à-dire que, voilà, si on se souvient bien, il y a 20 ans de ça, il y avait énormément de pubalgie, même 30 ans de ça. Voilà, on avait fait évoluer nos méthodes d'entraînement, du gainage, des choses comme ça. Et maintenant, il n'y en a quasiment pas, ou en tout cas très peu. Maintenant, on a énormément d'ischio, jambier plutôt, parce que justement, on a des profils de joueurs qui sont de plus en plus rapides, de plus en plus puissants. Voilà. Je pense que l'évolution athlétique des joueurs et donc de nos sports fait que forcément, on sera toujours amené à s'adapter à ça. Il y aura toujours des blessés, mais peut-être différemment, d'une autre approche. Par contre, une chose qui est sûre par rapport aux blessés, c'est que cette science-là, ce suivi-là, nous permet, mais vraiment, vraiment, j'insiste bien, au quotidien, d'anticiper ce qu'on veut faire avec le joueur, chose qu'on ne pouvait peu faire ou rarement faire avant. Et là, par exemple, voilà, on peut programmer notre semaine de travail avec un blessé, peu importe qui. On peut dire exactement, tiens, lundi, je vais faire tant de kilomètres à telle intensité, telle chose, tant de sauts. On peut tout quantifier, tout prévoir. Forcément, on va ajuster après en fonction du ressenti du joueur et de ce qu'on a vraiment réalisé. Mais en tout cas, en termes de programmation, de vision avant et de feedback, voilà, je veux dire, aujourd'hui, on a tous les outils, on ne peut pas dire « je ne savais pas voilà. ».
Alors, tu parlais de l'évolution athlétique du football. On a l'impression que les joueurs sont de plus en plus dynamiques, toniques, musclés, préparés, ils vont très vite, etc. L'étape ultime, entre guillemets, dans la préparation physique, de manière très, très large, c'est les gains marginaux maintenant. Parce que j'ai le sentiment que c'est une théorie que j'ai, et peut-être que tu vas pas du tout être d'accord, mais c'est qu'on arrive quasiment au bout de ce qui est possible de faire d'un point de vue physique. C'est-à-dire que on a des joueurs qui sont vraiment aujourd'hui bâtis pour faire de la performance au plus haut niveau, de manière très régulière, de manière très fréquente. J'ai le sentiment qu'on arrive un petit peu au bout de ça. Donc il y a encore des gains marginaux et c'est l'intérêt de travailler avec des sport scientists, un directeur de la performance pour aller chercher ce que tu disais, les 4, 5, 10%. On n'a pas forcément le chiffre exact. Mais aujourd'hui, par rapport à ton travail à l'AS Monaco et tout ce que vous avez mis en place, qui est quand même très important, notable et qui n'est pas le cas non plus de tous les clubs, est-ce que tu as le sentiment qu'on peut aller encore plus loin que ce qui est déjà mis en place aujourd'hui?
Oui, je suis d'accord avec toi et en même temps, je dirais qu'il y a encore beaucoup à faire parce que si on prend le club, s'il y a justement une cellule performance qui a été créée, c'est justement pour manager, comme je disais tout à l'heure, toutes ces compétences, pour justement aller chercher encore la chose un peu plus supplémentaire parce que voilà, la nutrition est importante, on sait que la préparation mentale va être importante aussi. Donc en fait, il y aura toujours des choses à faire. Après, effectivement, les joueurs aujourd'hui sont assez bien préparés, et on est comme de la très haute intensité et tout, mais il y a peut-être encore à faire aussi sur la capacité de répéter les matchs, voilà, à être à haute intensité, être capable d'augmenter les charges de travail parce que c'est vrai que même si dans un sport comme le football, on travaille quand même plus que ça, qu'on peut le dire, peut-être qu'en développant encore ses qualités physiques, on pourra s'entraîner encore plus, donc on pourra aller encore un peu plus loin. Là, quand on voit des profils comme Ruben Aguilar, qui sont des très gros travailleurs, au quotidien, je vous assure qu'on se dit qu'on peut aller encore très loin, parce que c'est par exemple, ce joueur-là qui est très bon, qui est pour moi un des meilleurs physiquement en France, et est capable d'organiser des charges de travail qui sont énormes, mais qui pourraient être encore plus grandes plus tard. Mais c'est une question aussi de progressivité, des choses comme ça. Et je pense vraiment que l'intérêt de ces cellules performance, voilà, on fait énormément de réunions parce qu'on essaie de, sur plein de détails, sur plein de sujets, d'aller un peu plus loin. Mais voilà, la science avance, les stratégies avancent, le football, la tactique change. Donc effectivement, notre méthodologie de travail, que ce soit la préparation physique, elle évolue aussi. Donc je pense que ce n'est pas une fin en soi. Au contraire, je pense qu'on n'est qu'au début de quelque chose. Et là, ce Monaco, voilà, je vais vraiment mettre en avant ce qui a été fait parce que je pense que je peux comparer ce que j'ai connu ailleurs. Je pense que c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. J'ai hâte de voir encore, parce que je sais que c'est que le début de quelque chose d'encore plus grand. Je pense que ce n'est pas une fin, au contraire.
Tu parlais de la répétition des efforts, des performances de manière plus régulière et plus fréquente. Une fois que la saison est lancée, quand on joue tous les 3 jours, alors la saison actuelle, elle est un peu particulière parce que finalement, la saison, elle est assez ramassée et que, bon, il y a eu des matchs reportés, que la Coupe d'Europe, par exemple, s'est faite de manière très rapprochée, etc. Donc, il y a beaucoup de clubs qui jouent tous les 3 jours. Là, on voit qu'il va falloir caser aussi la Coupe de France sans savoir si on va pouvoir aller au bout pour le moment. Est-ce qu'on peut encore parler de préparation physique ou est-ce que c'est plutôt un contrôle de l'état de fatigue des joueurs, en fait, que tu fais au quotidien quand t'es amené comme ça à jouer tous les 3 jours? On a le sentiment que, bah, en fait, il y a le jour d'après-match où, bah, c'est un peu plus léger quand même. Ensuite, on a un jour et ensuite, on tombe toujours sur la veille de match, en fait. Ma question, c'est comment tu répartis ton travail ou quelle est la différence entre ton travail en avant-saison, où tu peux travailler, j'imagine, beaucoup plus en profondeur, et le travail au quotidien qui est quand même, j'imagine, assez basé sur l'état de fatigue des joueurs et le contrôle de ça.
Je l'entends ce que tu dis, mais par un détail tout simple. Tu vois, par exemple, on joue ce soir, il y aura 11 joueurs qui vont jouer. Les autres, auront une charge qui sera beaucoup plus légère.
Oui.
Donc, que ce soit les remplaçants, ceux qui ne rentrent pas, ceux qui n'ont pas été convoqués, ceux qui sont blessés et qui sont bientôt de retour. Donc, quand on fait la proportion, il y a quand même une grande proportion de joueurs qui doivent travailler. Donc, au final, oui, effectivement, si tu te focalises sur un joueur précis qui va peut-être faire 40 matchs dans la saison de championnat, enfin qui va faire tous les matchs championnat plus un peu de coupe, etc., on pourrait se dire que oui, ça peut être que de la récup. Et encore que, parce que justement, l'intérêt de le suivre, de la data, c'est de voir justement la différence entre les matchs. Voilà, tiens, il a fait moins. Pourquoi il a fait moins? Est-ce que c'est une raison tactique? Est-ce que c'est une raison physique? Est-ce que justement, on ne peut pas le faire travailler un peu plus? Est-ce qu'on ne peut pas le compléter parce que là, par exemple, il manque de la haute vitesse? Donc, prévention des blessures, voilà, par rapport aux ischios. Voilà, donc en fait, il y a deux choses. Il y a un, à la fois, l'aspect suivi, on va dire, des joueurs qui jouent le plus. Est-ce qu'il manque quelque chose à ces joueurs-là? Voilà. Est-ce qu'ils ont... Là, il y a un peu plus, il y a un peu moins. Donc c'est un suivi plutôt de data et c'est de l'individualisation du travail au quotidien en post-entraînement. Ou, et de l'autre côté, il y a aussi ce management, on va dire, des deux tiers des joueurs, parce que concrètement, c'est ça. Les deux tiers des joueurs qui, eux, jouent moins, en tout cas, qui ont une charge de travail qui est beaucoup plus faible que les autres. Et justement, ces joueurs-là, ils sont amenés à être aussi titulaires. Parce qu'on voit bien qu'il y a de rotations dans les clubs. Donc, ces joueurs, ils doivent être prêts. Donc, en fait, c'est plus, je pense, notre travail, encore une fois, c'est l'anticipation, la veille, l'avant-veille, de savoir voilà, quel joueur, qu'est-ce qu'il va faire. Il n'a pas joué, ok, qu'est-ce qu'on va faire avec lui, quelle charge on va donner, de quelle manière, etc. Donc, en fait, on est vraiment pas que dans de la récupération. Je pense que si les gens pensent que ce n'est que de la récupération à J-1, J+1, c'est totalement faux, au contraire. On est vraiment dans la capacité à dire, voilà, notre entraîneur, il doit avoir le plus de joueurs disponibles le plus longtemps possible et à des niveaux de performance les plus haut possible. Voilà. C'est-à-dire qu'on ne se focalise pas que sur les 11, on se focalise sur l'ensemble des joueurs. Et, voilà. Et on sait très bien qu'une équipe qui a peu de blessés avec des joueurs en forme est souvent dans le haut de tableau. C'est des statistiques, on le sait très bien. Alors effectivement, comme tu disais, il y a une différence entre cette gestion-là au quotidien, qu'elle soit avec un match tous les 3 jours ou pas, peu importe, et la gestion du début de saison. C'est totalement, c'est ça, c'est totalement deux choses différentes. Mais la préparation d'avant-saison ne suffit pas dans, on va dire, une préparation pour une saison complète. Non, au contraire. C'est vraiment la gestion au quotidien sur l'année complète.
Parce que c'est souvent ce qu'on a entendu pendant très longtemps aussi. C'est-à-dire, l'avant-saison, on met du jus pour toute la saison et après, c'est de la gestion. En fait, c'est quelque chose qu'on a beaucoup entendu en tant qu'amateur de foot, entre guillemets, même des entraîneurs qui soutenaient cette théorie.
Et je suis tout à fait d'accord avec toi, on l'entend encore un petit peu, mais ça te paraît tellement logique que ce n'est pas possible. Voilà, ce n'est pas parce que tu fais 4 semaines, et encore que 4 semaines, je suis gentil parfois, mais plus intensive, qui va te permettre d'être prêt 10 mois après. Alors certes, ça va te permettre d'insérer ta charge progressivement, d'augmenter cette charge pour arriver à des niveaux plus élevés qu'au début de saison, mais elle ne suffit pas. Elle ne suffit pas, comme je t'ai dit. S'il suffit qu'un joueur ne joue pas 2 matchs d'affilée, on comprend parfaitement que s'il n'y a pas une gestion d'entraînement supplémentaire, individualisé, etc., ça ne suffira pas.
On parlait de l'avant-saison, justement. Petit flashback. Comment vous avez géré la coupure, puisque la saison n'est pas allée à son terme en Ligue 1 lors de la saison 2019-2020, pour les raisons que l'on sait. Comment vous avez géré ce moment-là? Parce que c'était un peu un saut dans l'inconnu pour tout le monde, même pour vous, j'imagine. C'est pas quelque chose qu'on peut prévoir. Alors, il y avait sans doute des ressemblances avec ce qui se passe l'été, où quand il y a 4 semaines de coupure, il y a aussi des exercices à faire et pour s'entretenir. Là, on est quand même parti sur 3 mois d'inactivité. Comment vous avez géré cette période-là et quelles conséquences ça a eu pour votre préparation d'avant-saison? On sait que beaucoup de clubs ont rajouté sans doute 1, 2, 3 semaines de travail supplémentaire pour monter vraiment progressivement, parce qu'il fallait réhabituer les corps, qui sont vraiment des machines, hein, des sportifs de haut niveau, à une charge de travail conséquente.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
En fait, c'est simple, on a eu la chance quand même d'avoir des joueurs investis pendant le confinement. Je m'explique, c'est que je n'ai jamais eu autant de travail pendant le confinement. C'est-à-dire que c'est utopique de dire ça, mais c'est vrai qu'on a nos joueurs ont été monitorés, c'est-à-dire que tous les jours, il y a des outils, bref, on leur donnait leur programme au quotidien. Chaque programme était individualisé. Et donc ça, ce n'est pas que le travail de moi, c'est le travail de tout le staff technique et même plus élargi, parce que le staff médical a fait un énorme travail de suivi aussi bien de la charge que des soins, que voilà, des différents paramètres. Et on a énormément travaillé, les joueurs se sont investis. On avait un feedback au quotidien via des logiciels pour voir qu'est-ce qui a été fait, pas fait, etc. Voilà, donc les joueurs ont énormément travaillé pendant cette phase. Alors certes, plutôt sur l'aspect athlétique, parce que voilà, il n'y avait pas trop possibilité de faire autrement, avec aussi des paramètres différents, parce que forcément, quand vous êtes à Monaco, si vous êtes à la campagne, on ne peut pas travailler de la même manière. Mais je veux dire, là, genre...
Justement, je te coupe un instant, Sandy, est-ce que vous avez fourni, je ne sais pas, du matériel, par exemple, à ceux qui ne pouvaient pas, on le disait, en ville, si tu vis en appartement en ville, c'est quand même un petit peu plus compliqué pour faire ton footing que si tu as de l'espace à la campagne ou voir un très grand jardin, je ne sais pas.
Ouais, bah juste avant le premier confinement, on a anticipé les choses, on a vu que voilà, ça se passe un peu comme ça. Les joueurs sont venus récupérer du matériel, tout le monde, ils avaient tous leur paquetage assez conséquent. On a même fait livrer du matériel chez eux. Et là aussi, je devrais quand même soulever aussi le travail du club, qui a été extraordinaire, parce que le club a permis aux joueurs de s'équiper, a fait livrer des choses chez les clubs. Les joueurs aussi se sont investis, parce que j'ai eu énormément de demandes d'achat de matériel. On a sollicité tous les différents revendeurs français voire européens pour faire livrer du matériel chez les joueurs. Certains ont fait même des salles de musculation. Enfin, c'était très bien.
D'accord.
Donc non, mais sincèrement, ça a été certes énormément de travail, parce qu'on a vraiment pendant le confinement, on a énormément travaillé. Mais sincèrement, ça a été un plaisir de gérer ça, parce que alors certes, on n'aurait pas voulu que ça existe, parce qu'on n'aurait pas fait être sur le terrain, mais en tout cas, les joueurs ont bien bossé. Après, on a eu la chance aussi d'avoir nos conseillers scientifiques qui nous ont un peu aiguillés sur qu'est-ce que cette période pouvait nous apporter de négatif. On savait qu'il y avait une possibilité que, par exemple, en termes de tendinopathie, les tendons pouvaient être assez touchés, parce qu'il y avait déjà eu un peu ce cas-là à NBA quelques années précédentes. Il y a une étude scientifique qui le prouvait. Donc, on avait un peu justement dirigé nos entraînements là-dessus. Et après, au retour, forcément, on a fait un peu comme tout le monde. On a recommencé beaucoup plus tôt. Et la stratégie, c'était encore une fois, c'était un travail progressif. Voilà, on a commencé très léger, augmenté la charge progressivement. Et encore une fois, avec ces outils qu'on a, ce feedback des joueurs et ce feedback des technologies, on a pu vraiment très bien monitorer et augmenter très progressivement la charge. Et l'avantage, on n'a pas eu énormément de cas, nous, sur le Covid. On a eu des joueurs qui ont été très impliqués, avec le staff performance qui a bien bossé. Et en fait, ça s'est assez bien passé. Et on a eu la chance aussi donc, d'avoir un staff comme le staff de Niko Kovac, qui est quand même très basé sur la performance et la préparation physique. Et c'est vrai qu'on a augmenté les charges progressivement, mais on a atteint des charges de travail qui étaient vraiment très, très importantes, parce que c'est le style de jeu, la stratégie de l'AS Monaco, la performance qu'on veut mettre en place. Mais c'est vrai que finalement, on l'a assez bien passé, cette période un peu difficile. Voilà.
Je repense à ce qu'on a évoqué juste avant sur les gains marginaux, tout ce qu'on pouvait encore améliorer dans la préparation physique. On n'a pas parlé, puisque c'est une de tes fonctions aussi, de la gestion des joueurs blessés, et notamment ce qui peut être encore... améliorer à ce niveau-là. Est-ce qu'il y a des gains marginaux sur raccourcir les temps d'indisponibilité, peut-être améliorer la prise en charge du joueur blessé, améliorer les protocoles de soins, faire en sorte que si on est blessé à la jambe, à une jambe par exemple, je sais pas, un pied ou quelque chose comme ça, on puisse quand même travailler sans exposer la blessure, mais travailler physiquement pour ne pas perdre trop et être de retour plus facilement en termes de performance sur les terrains, c'est-à-dire ne pas avoir trop perdu physiquement et être apte assez rapidement. Est-ce que tout ça, tu vois encore des axes d'amélioration ?
Oui, oui, je pense que clairement, c'est ce domaine-là où, dans les prochaines années, c'est déjà le cas depuis longtemps, dans tous les clubs, où on sait qu'il va falloir être encore de plus en plus performant, parce qu'on sait très bien, comme j'ai dit tout à l'heure, voilà, moins vous avez de blessés, plus vous avez de chances d'être dans le haut niveau, dans le haut tableau. Donc forcément, ça va être un axe encore de plus en plus prioritaire. Après, si je veux parler encore de l'AS Monaco, c'est franchement, là j'insiste bien, en comparaison de ce que j'ai connu ailleurs, je pense que c'est là où j'ai le plus progressé, moi, depuis mon arrivée. C'est parce que j'ai la chance d'avoir à côté de moi Jérôme Palestri, qui a bossé 20 ans en tant que traîneur médical à Marseille, qui est sûrement le meilleur kiné réathlétateur de France. On a l'arrivée maintenant de Sylvain Blanchard, le docteur, qui est pareil, est très calé là-dessus, qui est un atout extraordinaire. On va rajouter ça à toute la cellule performance qu'a mis en place notre directeur sportif, James Jones. Sincèrement, maintenant, on prend en charge un blessé, on le prend vraiment dans sa globalité. C'est le staff entier qui le suit et il y a une stratégie qui est commune, c'est-à-dire que ce n'est pas quelqu'un tout seul, simplement tout seul qui le prend en charge. C'est-à-dire qu'il est vraiment accompagné du début à la fin sur tous les paramètres. J'insiste encore bien sur la nutrition, sur tous ces paramètres-là. Et c'est vraiment, vraiment quelque chose qui, moi, me plaît énormément parce que je ne dis pas qu'on fait des miracles, hein, loin de là. En tout cas, c'est quelque chose qui est très précis, qui vient d'un travail collectif. Et je pense qu'on fait vraiment du très bon boulot dans ce club-là. Et si un jour, je suis amené dans 30 ans, j'espère le plus tard possible, partir de ce club-là, c'est ce qui, je pense, me marquera le plus. C'est vraiment un staff en réhab qui est vraiment, vraiment, vraiment compétent. Et c'est un vrai plaisir.
Alors, dans un club, on aime bien tout maîtriser en général. Il y a néanmoins, avec les joueurs, tout un pan que vous ne pouvez pas gérer directement. Vous pouvez avoir une influence dessus, mais c'est difficile de tout contrôler. Je parle évidemment de ce qui se passe en dehors du centre d'entraînement, du terrain, etc. Je parlais juste à l'instant de la nutrition, par exemple. On peut ajouter le sommeil, le repos, ce qu'on appelle bon vulgairement l'hygiène de vie. Comment vous conseillez les joueurs là-dessus ? Est-ce que vous les sentez réceptifs ? Et est-ce que vous leur montrez des cas d'études pour leur faire comprendre et pour qu'ils aient conscience de tout ce que ça peut leur apporter, parce que c'est pas forcément inné non plus. Même si les joueurs en entendent parler des centres de formation, etc., en fait, il y a aucun meilleur exemple que l'exemple en lui-même, justement. Je te donne un exemple. On a fait un épisode avec Franco Antonucci, qui est passé par justement l'AS Monaco et qui est aux Pays-Bas maintenant. Et lui, il m'expliquait que le staff actuel dans son équipe à Volendam l'avait beaucoup influencé sur la nutrition. Et il disait, c'est pas en fait que je mangeais mal, mais c'est simplement que je mangeais pas comme un sportif de haut niveau. Il me disait, moi, je sais très bien que j'avais un problème avec les boissons sucrées, les sodas. Et il disait, comme il est belge, j'aimais bien le chocolat. Ça fait un peu cliché, mais c'est la vérité. Et il me disait, avec ces personnes-là, avec une nutritionniste, on a mis un programme en place pour que je change mon alimentation. Et il m'a dit, moi j'en ai vu tout de suite les bénéfices. La première chose, c'est moins de risque de blessure. Et la deuxième qu'il m'expliquait, c'est que lui avait tendance à finir les matchs avec des crampes. C'est-à-dire qu'à partir de la 75e, 80e, ça commençait un peu à tirer. Et à partir du moment où il a arrêté les boissons, donc les sodas, et qu'il a remplacé le chocolat au lait par du chocolat noir et en petite quantité, ça allait beaucoup mieux. Justement, ça c'est un exemple qui est marquant parce que c'est quelqu'un qui a changé son alimentation et qui en a retiré beaucoup de bénéfices. Est-ce que justement, vous leur montrez des cas d'études qui peuvent aller faire le petit pourcentage supplémentaire pour les convaincre ?
Oui, non, mais justement, ce que tu dis là, ça fait partie de la performance, justement. On a un nutritionniste au club qui est justement très compétent et puis qui est dans ce staff performance aussi. Et justement, c'est peut-être ces 2-3% de plus supplémentaires qui font que le joueur va être encore plus performant, va pouvoir enchaîner les matchs le plus possible. Alors justement, pour répondre à ta question précisément, que ce soit Yann Lemeur ou Bruno Marié, ils font énormément d'infographies sur la nutrition, sur le sommeil, sur la récupération. Au quotidien, les joueurs sont martelés, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas, ils reçoivent sur leur téléphone ou aussi bien sur nos différentes télés, etc., sur les différentes réunions qu'on fait, sur les conseils qu'on leur donne. C'est-à-dire, par exemple, là, on enchaîne les matchs. Donc, tous les jours, ils ont un conseil sur aujourd'hui, voilà, il faudrait dormir à peu près tant d'heures, il faudrait faire peut-être la sieste à tel moment, il faudrait manger telle chose, etc. Et le nutritionniste, Juan, dans ce cas-là, lui, alors, carrément, les joueurs, je dirais, c'est un peu la nounou, il est au quotidien par WhatsApp toute la journée, et les joueurs envoient les photos en disant, tiens, est-ce que je peux manger ça, est-ce que ça c'est bon ou pas, oui, tiens, je te conseille ci, je te conseille ça, et il ne faut pas oublier que les joueurs mangent quand même beaucoup au club, parce qu'ils mangent le matin et le midi, donc c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a que le repas du soir qui est géré à distance. Mais je pense sincèrement qu'il y a une éducation à avoir chez les jeunes qui est importante. Mais après, quand vous arrivez à ce niveau-là de performance, les joueurs sont assez bien éduqués. Moi, c'est vraiment pas quelque chose qui me choque, encore moins l'AS Monaco, mais ça me choque vraiment pas. C'est pas un paramètre, je pense, qui est le plus néfaste actuellement. Voilà. Je prends le cas de d'un joueur qui est très connu, Cesc Fabregas à qui j'étais tout à l'heure, et ben voilà, Cesc, c'est un exemple à lui tout seul, je veux dire, en termes de nutrition, en termes de sommeil, d'hygiène de vie, voilà, quand je dirais presque, on a plus à prendre exemple sur lui et que j'aurais des conseils à lui donner. Tout ça parce que justement, il y a une expérience, il y a des gens derrière lui qui l'aident. Quand il a une question, voilà, il y a des gens, que ce soit Bruno, Yann ou Juan, qui sont là pour lui répondre. On est là pour l'assister, mais c'est vrai que je pense que l'éducation est à faire un peu plus chez les jeunes, parce que c'est normal, ils sortent des fois de centres de formation, même si déjà ils sont bien éduqués là-dessus, mais il y a toujours mieux à faire. Mais je pense que les choses sont comme assez bien faites dans différents clubs, et franchement, à Monaco, c'est vraiment un thème sur lequel on insiste beaucoup. Alors moi, c'est pas mon domaine de compétence, mais je regarde ça avec, voilà, avec grand plaisir.
Alors un autre domaine, on a parlé nutrition, on peut parler sommeil, repos, tu as parlé des siestes, des conseils de sommeil que les joueurs reçoivent. Un autre domaine qui est difficile à gérer pour un club, c'est les entraînements supplémentaires que parfois les joueurs peuvent faire avec des préparateurs physiques externes au club. Et justement, on parlait de l'approche scientifique où tout était mesuré au gramme près, entre guillemets, au sprint près, au mètre près. Là encore, question, c'est comment vous le gérez? Est-ce que c'est des cas que tu as rencontré, alors pas forcément seulement à l'AS Monaco, mais dans ton parcours dans différents clubs et sélections, ce phénomène qu'on voit quand même de plus en plus avec évidemment les réseaux sociaux, les joueurs le mettent sur leurs réseaux sociaux pour montrer qu'ils s'entraînent toujours plus, est-ce que c'est difficile à gérer du coup?
C'est genre, c'est un thème qui est difficile des fois à appréhender. Il y a quelques années, ça, j'étais assez négatif sur ce genre d'intervention. Tout. Aujourd'hui, je suis forcé de constater que ça existe, que parfois, ça peut faire du bien aussi, voilà, aux joueurs de voir, je dirais pas autre chose, mais en tout cas d'être parfois dans une journée off, de voir quelqu'un qui l'apprécie différemment, qui connaît plus longtemps. Nous, la discussion qu'on a avec les joueurs par rapport à ça, c'est la transparence. Voilà. Tout ce que vous avez fait ou ce que vous allez faire, voilà, on adaptera les choses. Parce que nous, on est capable de le faire au club, on est capable de le monitorer, etc. Si par exemple, effectivement, vous partez parce que vous avez 4 jours off et en vacances, etc., et que vous estimez qu'il faut faire un truc, quelque chose de plus parce que vous estimez que vous avez besoin et que vous allez pouvoir le faire dans telle ville avec telle personne, ok. Il faut juste qu'on le sache, qu'il y ait une transparence. Parce que nous, notre intérêt, c'est justement au retour, qu'on sache exactement ce qui a été fait pour ne pas faire d'erreur derrière. Parce que si nous, on programme quelque chose parce qu'on sait que derrière, la charge était de zéro ou très faible, alors que ce n'était pas tel cas, on peut avoir danger. Donc, on a eu des discussions avec les joueurs, des réunions là-dessus, par la transparence, on se dit les choses, et en général, ça se passe bien. À Monaco, je n'ai pas de problème. Par contre, j'ai connu ça dans un club particulièrement, un problème un peu plus important, où un joueur, par exemple, qui n'était pas féru, voilà, de travail physique en club, n'était pas féru de grosse charge de travail, et aimait bien, de temps en temps, les week-ends, faire un peu de travail athlétique à côté, pour les réseaux sociaux. Et là, il y a danger parce que effectivement c'est plus de la com, c'est plus dire du paraître, et là-dessus je pense que des fois il faut être intransigeant, voilà, c'est une question club. Mais quand votre club est fort, quand la réponse elle vient un peu de vos dirigeants, je pense que ça n'existe, enfin, c'est pas que ça n'existe pas, en tout cas c'est assez bien géré, voilà. Après, encore une fois, tout dépend qui on a en face de nous, quel joueur et quel type de préparateur derrière individuel sont. Mais ça me choque de moins en moins, je trouve que c'est mieux appréhendé de plus en plus parce que c'est plus commun.
On dit souvent, alors là on a beaucoup parlé du corps, on dit souvent que la tête commande le corps aussi. Est-ce que dans ton travail au quotidien, il y a aussi une forte approche humaine et mentale avec les athlètes? Alors j'imagine qu'il y a des personnes vraiment très spécifiques sur l'approche mentale de la performance avec les joueurs, etc. Mais est-ce que ça peut se passer avec des discussions privées, de l'aide apportée, voilà, des moments où vous êtes en discussion one-to-one, etc. Sur une approche vraiment humaine pour... On sait que ça marche beaucoup à la confiance, au mental, etc. Est-ce que ça fait partie aussi de ton quotidien? Et est-ce que tu t'es formé toi-même sur ces thématiques-là, ou est-ce que c'est grâce à ton expérience maintenant que tu peux aborder des discussions sereinement avec un joueur?
Alors, j'aurais 100 000 choses à te répondre là-dessus. Ça. Il y a 15-20 ans, par là, j'estimais que je devais être formé là-dessus, c'était important. Et j'ai passé un diplôme à Dijon de coaching et préparation mentale. Je me suis rendu compte que j'ai appris énormément sur moi. Ça a été peut-être la formation qui m'a le plus touché. Mais je me suis senti aussi être incapable, en termes de compétences, d'utiliser des outils de préparation mentale sur des joueurs. Par contre, au quotidien, quand on coach, que ce soit la prépa physique, l'entraînement, peu importe quoi, c'est du coaching en fait. Parce que justement, on n'appréhend pas le joueur d'un point de vue physique, on appréhend le joueur, l'individu en lui-même. Donc, en soi-même, au quotidien, on fait ça. On fait du coaching, de la préparation mentale. Là, à Monaco, on a la chance d'avoir aussi un staff dans la performance avec un psychologue, un docteur aussi qui est très au fait de ça. Et c'est pareil, les joueurs sont suivis là-dessus. Mais je pense que le plus important, encore une fois, c'est d'aimer ses joueurs. Moi, je sais que partout où je suis passé, j'aime mes joueurs, j'aime être avec eux. C'est d'une passion. Donc, quand vous êtes dans cet état d'esprit-là et que vous aimez faire votre travail, forcément, vous investissez. Vous présentez une séance au joueur qui est carré, tout a été préparé, et le joueur il le ressent, et quand le joueur il le ressent, derrière il y a le feedback qui est positif et il vous le renvoie. Le meilleur exemple, hein, j'ai eu Benjamin Lecomte pendant 6 à 7 semaines là, avec moi. Voilà, je sais que Benjamin est un très gros travailleur. Voilà, les choses étaient carrées le matin très tôt. Et quand il voit ça, voilà, derrière, c'est un vrai plaisir de bosser avec ce genre de personnes parce qu'il s'investit derrière et il y a une relation qui se nourrit, qui se crée derrière, qui est extraordinaire. Et pour moi, ça fait partie aussi un peu de la préparation mentale. Voilà, c'est une question de relation. Mais c'est une question de personne. Hein, voilà, question de personne.
Alors, on parlait de question de personne. Un des derniers aspects que je veux évoquer avec toi, Sandy, qui me marque, c'est que évidemment maintenant les footballeurs commencent très tôt. Alors c'était un peu vrai aussi, hein, c'est pas forcément quelque chose de très nouveau, mais c'est vrai qu'on le note à une échelle, quasiment une industrialisation maintenant. C'est-à-dire que des jeunes de 16, 17, 18 ans, bah maintenant c'est très régulier dans les groupes professionnels. Alors pas forcément que sur les matchs, mais au moins à l'entraînement. Comment on prépare physiquement des adolescents qui n'ont pas toujours terminé leur croissance, sans gêner justement cette croissance, parce qu'on sait que ce moment-là est très important et que ce moment-là, s'il est mal géré, il peut avoir des conséquences à long terme sur leur physique. Comment tu abordes ce travail avec les plus jeunes joueurs qui sont encore en phase de croissance ?
Moi, je pense que la formation justement des entraîneurs, quand je dis entraîneurs, c'est des éducateurs, des gens qui interviennent dans les pôles, etc., est quand même vraiment maintenant elle est très intéressante. Tout le monde est au fait de ça. C'est-à-dire que peut-être qu'il y a eu des abus il y a peut-être 20 ans, j'en étais témoin. Mais aujourd'hui, je pense que le recrutement est de plus en plus tardif, que les charges de travail sont quand même de plus en plus adaptées. Donc je pense qu'il y a moins de problèmes là-dessus. Par contre, effectivement, il y a des données scientifiques qui permettent de voir voilà, l'âge théorique et l'âge, on va dire, athlétique, physique, voilà, du jeune joueur, qui permet de nous aider. Mais encore une fois, c'est, je pense, la compétence et la formation des éducateurs qui, aujourd'hui, permettent d'avoir une intervention sur ces jeunes qui est à la fois liée, certes, à l'âge théorique, moins de 16, moins de 17, machin, mais aussi à l'âge réel qu'on puisse lui donner. Ce n'est pas quelque chose qui me choque. La seule chose, c'est respecter peut-être les qualités physiques, le développement des qualités physiques en fonction de leur âge, voilà. Peut-être, on sait très bien que l'intérêt de la coordination, de tout ce qui est motricité chez les jeunes est très importante. Donc dans ce cas-là, on peut en faire énormément. On sait que ça va pas avoir d'incidence sur l'individu. On sait que peut-être que le développement de la force doit être un peu plus tardif. Donc aujourd'hui, la formation des éducateurs le permet et forcément, ce développement de la force est un peu plus tard. On sait que par contre, à l'inverse, tout ce qui est acquisition des gestes de mouvements fonctionnels comme des mouvements d'haltérophilie peut être très bien fait assez tôt, enfin assez jeune en tout cas, dans la préformation, à des charges très légères. Et ça aussi, cette formation, cette connaissance maintenant théorique nous permet de le mettre en place. Je pense que c'est vraiment ça. C'est la compétence et l'expérience d'éducateur qui aujourd'hui permettent d'avoir une intervention qui est assez adaptée aux jeunes joueurs. Et je ne vois rien maintenant de très choquant, chose qui a été le cas, et certes, il y a peut-être 20-30 ans dans plein de sports, hein, pas que le football.
Alors maintenant, Sandy, je voudrais qu'on fasse une petite étude de cas, entre guillemets, pour que nos auditeurs comprennent bien. Les auditeurs aiment bien parfois le concret aussi. À partir d'un exemple, si demain, un joueur à l'AS Monaco se blesse, on peut prendre une blessure musculaire à la cuisse, par exemple, et qu'il est absent 3 semaines, dans à la fois le protocole de soins et ton travail de réathlétisation et d'entretien du corps, comment tu fonctionnes et quels sont les exercices ou quelles sont les choses que vous travaillez tous les deux?
Alors justement là, quand ça arrive, hein, si on prend un exemple, si une chose arrive comme ça, les premières heures et les premiers jours sont très importants. C'est-à-dire que tout de suite, il y aura une concertation hein, dans le staff médical. Le docteur va nous faire une sorte de diagnostic, hein, va nous dire précisément ce qu'il en est. On va surtout regarder le mécanisme de lésion. C'est le plus important, c'est-à-dire comment il s'est blessé et sur quelle partie. C'est très important parce que voilà, souvent on dit voilà, il est blessé là. Ok, très bien, il est blessé là, à l'ischio, au quadri, bon, peu importe. Mais le plus important, c'est comment il s'est blessé parce qu'en fonction de la manière dont il s'est blessé, ça a une importance très importante sur la réathlétisation et sur les exercices qu'on va devoir faire et surtout sur quoi on va devoir l'amener, être capable de faire pour que ça ne redevienne pas le cas. Voilà. Donc le mécanisme est peut-être encore plus important que la lésion. J'exagère, mais c'est presque ça. Ensuite, avec le docteur, on va construire justement ce qu'on appelle le retour to train, c'est-à-dire la programmation du retour sur le terrain avec l'équipe. Voilà. Comment on va l'amener, peu importe que 3-6 semaines, peu importe la lésion. Et ensuite, une chose importante, on va avoir un rendez-vous avec le joueur, avec le docteur, qui justement, et là c'est vraiment l'intérêt d'AS Monaco, c'est ce qui est vraiment, je pense, super important. Je ne sais pas si ça se fait dans tous les clubs, mais en tout cas chez nous on le fait, et je pense que c'est l'étape la plus importante, c'est faire adhérer au joueur justement ce programme-là. Lui expliquer, voilà, tu t'es blessé tel jour, de tel mécanisme, voilà les pistes d'explication, peut-être pourquoi. En tout cas, voilà, on va t'expliquer ce qu'on va faire, comment on va le faire, de telle manière. Et on va lui expliquer aussi une chose importante, c'est que ton retour à l'entraînement et à la compétition ne va pas se faire linéaire. ça ne va pas aller de mieux en mieux. Non, il y aura des moments où ça va aller très bien, des moments où tu as l'impression de régresser, des fois il y aura un peu de stabilisé. Et quand le joueur a compris ça, on lui donne des dates clés aussi. Voilà, normalement, ce jour-là, tu reprendras la course. Ce jour-là, tu reprendras les accélérations, décélérations. Ce jour-là, tu reprendras les appuis. Ce jour-là, tu reprendras les sprints, etc. Le joueur se sent déjà pris en charge. Il a compris. Et déjà, on a fait une grande partie du road. Parce que l'aspect mental est très important.
Bah justement, c'est ce que je me permets de te couper, Sandy. C'est que pour des joueurs qui sont, alors le terme est très mal choisi, mais dopés à l'objectif, le match qui arrive est l'objectif, objectif de place, objectif de performance, etc. Lui donner des objectifs avec des dates de retour dans ces différentes étapes, pour lui aussi, c'est un repère, en fait.
Bah, le repère, j'irai même plus loin. C'est même pas tellement l'objectif, c'est les sous-objectifs. Je m'explique. C'est pas tellement la date de reprise du match. Alors, forcément, le joueur, c'est la première chose qu'il va demander, ce qui est logique. Mais nous, c'est tout, les sous-dates, on va lui donner des dates. Là, tu vas reprendre le vélo, là, reprendre la course, là, tu vas reprendre les appuis. Et je pense que c'est ces dates-là qui vont lui permettre de dire, voilà, aujourd'hui, je me sens moins bien, mais ok, c'est peut-être normal parce que demain, ça ira mieux, je vais progresser plus vite ce jour-là. Parce que, effectivement, les joueurs pensent, comme tous les athlètes, hein, que ça va être linéaire, que la progression va se faire normalement. Et alors que non, voilà, c'est une blessure. Il y a des jours où on se sent moins bien. Il y a des jours où on aura des dommages musculaires plus importants qu'un autre parce qu'on a fait énormément d'excentriques. Voilà, peu importe, je donne des exemples. Mais voilà, ce ne sera pas linéaire. Il y aura des cassures. Mais sache que, voilà, l'objectif, c'est ça. Retour ici, là, retour ici, à telle date, et on avance. Et encore une fois, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, le monitoring, aussi bien avec les différents outils qu'on a parlé tout à l'heure, mais aussi bien avec le retour du joueur sur comment il se sent, etc. Le mix des deux, plus l'intervention de l'ensemble du staff médical avec les différentes compétences, le nutritionniste, le psychologue, le kiné, le trainer, le medical trainer, etc. L'ensemble de ça va faire que le joueur, c'est un projet en fait. C'est comme un projet. Moi, je prends ça comme ça. C'est comme si on fait construire une maison. Bah, y a des étapes où on sait qu'il va falloir isoler, etc. Bah, là, c'est pareil. C'est commun et on amène tout ça et on sait que ce sera parfois plus difficile que d'autres. Mais en tout cas, on y arrivera. Et je pense que quand le joueur a compris ça et adhéré, sincèrement, ça se passe très bien. Et je rajouterais une chose, c'est que souvent il se construit une relation entre ce mini staff, on dit, autour du joueur, qui est très importante. Et souvent c'est des liens qu'on tisse pour très très longtemps. Ça aide.
Et avec le joueur aussi, parce que on sait que le joueur qui est blessé se sent aussi à l'écart. Alors il se sent à l'écart parce qu'il l'est finalement, qu'il ne peut pas jouer avec ses coéquipiers, mais aussi mentalement, de sentir qu'autour de lui il y a des personnes, un staff en fait qui est dédié à sa reprise du jeu, entre guillemets, ça doit aussi l'aider et le motiver à avoir une influence mentale considérable pour gérer sa blessure.
Mais moi, justement, je vais te parler de cas concrets. Il y a peut-être 10-15 ans, dans pas mal de clubs, voilà, on voyait des choses, voilà, les blessés, je ne veux pas les voir avec les joueurs, je veux, justement, il ne faut pas. Et au contraire, et là, ce qui est extraordinaire à l'AS Monaco, et je pense qu'on a là-dessus, dans la performance, on a tout compris, c'est que, et ce qui se fait aussi dans beaucoup d'autres clubs, hein, je ne veux pas mettre trop en avant non plus, mais c'est vrai, en tout cas, c'est que le joueur blessé, il fait partie intégrante de l'équipe. C'est-à-dire qu'il va voir aussi les vidéos d'avant-match, il va voir les causeries quand le coach veut parler tactiquement dans la semaine. Le joueur est aux mêmes horaires, au même moment que l'équipe, il se change en même temps que... Et en fait, il passe aussi bien dans les mains d'un staff en réhabilitation que dans les mains du staff élargi. L'entraîneur le voit quand il s'entraîne, les adjoints aussi, etc. Ce qui fait qu'au final, il ne se sent pas vraiment de côté. Au contraire, je pense que c'est une clé très importante, puisque toute la journée, on lui demande alors comment ça va, comment ça se passe, t'en es où, j'ai vu que t'as fait ça, c'est super, t'as vu, bravo à toi, continue, on y est bien. Quand justement il y a une programmation qui est claire, définie, que le joueur a adhéré, a compris, et quand derrière il se sent soutenu aussi bien par un staff restreint que le staff élargi qui le regarde, que par ses coéquipiers, et qu'il se sent aussi bien intégré, alors peut-être qu'il n'est pas open pour jouer, mais en tout cas il est aussi bien intégré que l'équipe, je pense qu'on est sur la bonne voie.
Alors on arrive au bout de l'entretien, Sandy, et la dernière question est toujours la même. Qui aimerais-tu entendre dans ce podcast dans les prochaines semaines ? Alors soit tu as un nom en particulier à me soumettre, ou plus simplement un métier que tu souhaiterais que les auditeurs puissent découvrir, approfondir, redécouvrir dans les prochaines semaines et prochains mois.
Bah, écoute, comme ça, je te donnerai deux réponses. J'ai le droit ou pas deux réponses ?
Ah, bien sûr.
Totalement différentes. Alors, une, parce que c'est quelqu'un que j'apprécie énormément, qui est contenant pour moi et que je pense qu'il a énormément à apporter au football français, c'est Willy Sagnol. Parce que c'est un entraîneur, je pense, qui a énormément d'avance dans son esprit, dans sa tête. Peut-être parce qu'il a passé 10 ans en Allemagne au Bayern et c'est un club qui doit être sûrement formateur et visionnaire, qui est aussi en carrière, mais je pense que c'est quelqu'un qui en avance sur son temps.
D'accord.
Et donc, je te dirais Louis. Et de l'autre côté, je te dirais bah, peut-être un porte-sensiste ouais, du club, que ce soit Yann Lemeur ou Bruno Marier, parce qu'eux sont aussi des pièces très importantes du club et de notre staff performance. Et ils sont même mieux que moi d'expliquer un peu leur vision, leur méthode de travail, ce qu'ils sont capables d'apporter, parce que c'est quelque chose de très enrichissant et très intéressant pour tout le monde.
Eh bien, ça me fait deux nouvelles invitations à lancer. Merci une nouvelle fois, Sandy Guichard,
merci
pour cette disponibilité, ta confiance et pour la qualité de cet entretien. Et à très vite.
C'est avec grand plaisir, André. Merci, au revoir.
Merci d'avoir écouté cette conversation. Le podcast Prolongation est disponible sur l'ensemble des plateformes audio comme Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou encore Deezer. N'hésitez pas à mettre les 5 étoiles sur Apple Podcasts si vous avez apprécié le contenu de cet entretien, c'est une étape très utile pour faire découvrir ce podcast au grand public. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux et tous les liens sont dans la description de cet épisode. Je vous dis à très vite pour une nouvelle conversation autour du foot.